Il me faudra environ une dizaine de minutes pour régler le problème. 20 de plus pour prévenir le cabinet d'avocats d'empêcher la sortie de l'article du Globe. Une demi-heure pour préparer le concert. Mike doit être sur scène à 20h. Ça va être serré. Et cette photo, putain. Gardez son calme. Tu vas y arriver, Joan. Tu y arrives toujours. Pour le moment, il me faut trouver une excuse pour justifier l'annulation des dernières interviews. Si je ne prends pas vite la parole, les journalistes vont devenir ingérables. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention? Les interviews sont annulées pour ce soir. Mike est désolé, mais il ne se sent pas bien. Il préfère se reposer en vue du concert à l'Apollo ce soir. Il s'excuse sincèrement de ne pouvoir honorer ses engagements. Je reprendrai contact avec chacun d'entre vous afin d'organiser des entretiens téléphoniques dans les prochains jours. Merci de votre compréhension. Sans attendre, je pénètre dans la chambre sur la gauche, celle réservée à mon équipe. Si j'étais restée une seconde de plus face aux journalistes, ils m'auraient assaillie de questions. Ma Claire de gérer ça. T'es payée pour savoir, Joan. J'ai déconné ce soir. Il a raison. À mon niveau, on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Je travaille pour Mike depuis 16 ans. Il m'a souvent engueulée. Il en a besoin. Mais là, c'était différent. J'aurais dû approfondir les recherches sur ce journaliste. Mais il y a eu tellement de problèmes avant notre départ. Je n'aurais pas dû laisser traîner l'interview. J'ai bien senti pourtant que ça n'allait pas, que Mike perdait le contrôle. C'est comme si j'attendais que ça dérape. Peut-être qu'au fond de moi, ça me plaît de le voir s'énerver. Peut-être que j'aime me rendre compte combien il est dépendant de moi dans ces moments-là. Combien il a besoin de moi. Vraiment. Je hais l'une de mes assistantes, Chelsea, la petite nouvelle que vient d'embaucher Claire. Elle a des jambes fines et une taille de guêpe que je remarque d'emblée. Elle s'approche à petits pas, engoncée dans son tailleur trop serré. « Trouve-moi le numéro de téléphone du rédacteur en chef du Globe, » dis-je. « Je m'en charge, Madame Harlow. »« Ne m'appelle jamais Madame. » « Appelle-moi mademoiselle. Compris ?»«
Très bien. Désolée, mademoiselle. »
Je regarde la gamine se diriger vers le bureau de la suite en dodelinant son fessier de droite à gauche. J'ai 42 ans. Je suis encore jeune. J'ai toute la vie devant moi. Elle se prend pour qui, cette traînée, avec sa poitrine bien en évidence, son petit cul moulé, sa peau bien lisse? Ce madame lancé comme une injure, comme un crachat? Sans perdre de temps, je saisis mon téléphone portable et compose le numéro de notre cabinet d'avocat, Nash & Robinson. Claire vient de rentrer dans la pièce. D'un mouvement de main, je lui fais signe d'approcher. Alors ?
Globalement, ça va,
répond-elle.
Les journalistes de GQ tiraient une tronche pas possible. Mike est censé faire leur prochaine couverture.
Pour faire passer la pilule, tu les invites tous au concert ce soir en loge VIP. Claire opine. Avant qu'elle rejoigne le reste de l'équipe, je la retiens. Chelsea, la nouvelle. Je ne veux plus la voir. Elle est trop jeune, vulgaire, une poufiasse. Tu m'as habituée à mieux. Tu me la vires et tu m'en trouves une autre, qui soit au niveau de nos attentes. Une voix se fait enfin entendre dans mon combiné. Je m'isole dans la salle de bain de la suite. C'est l'avocat qui décroche. On a un problème, Kenneth.
Grave ?
S'enquiert-il.
Qu'est-ce que Mike a encore fait ?
C'est une interview qui a dégénéré. Le journaliste a posé de mauvaises questions. Il a foutu Mike en rogne. Nous souhaitons empêcher que l'interview paraisse.
Je comprends. C'est pour quel support ?
Le Globe.
Je connais. Un torchon. Ils ont l'habitude de se taper du procès, mais ils n'ont jamais eu affaire à nous.
Vous avez enregistré l'interview ?
Comme toujours.
Bien.
Demandez au plus vite à l'une de vos assistantes de retranscrire le contenu de la bande et transmettez-moi ça par fax. Je vais voir s'il y a matière à préjudice. Vous voulez que je joigne le directeur du magazine pour lui mettre la pression ?
Non, je m'en charge. Je vais lui faire suffisamment peur pour qu'il lâche le morceau.
Je n'en doute pas, Joan. Tenez-moi au courant.
Kenneth, il y a autre chose. Le journaliste, Paul Green, a sorti une photo à la fin de l'interview pour la montrer à Mike. On y voyait un cadavre de femme au bord d'un lac.
Silence au bout de la ligne.
« Je vois, » reprend Kenneth. « Vous avez pu identifier... »
Il a parlé de Clara Miller, et j'ai reconnu l'endroit. C'est le lac aux suicidés.
« C'est problématique. » Souhaitez-vous que l'on s'occupe du problème, Joan ?
Non, pas pour le moment.
Faites suivre ce foutu journaliste. Je veux tout savoir sur lui.
C'est noté.
En raccrochant, je remarque que cette connasse de Chelsea s'avance vers moi de son insupportable démarche chaloupée. Elle me tend un papier.
Mademoiselle, voici le numéro du rédacteur en chef du Globe. Il s'appelle John Kelton.
Cet accent traînant des États du Sud, qui transpire la paresse.
Sans un regard pour elle, je saisis le papier et compose le numéro.
Une sonnerie, une autre.
Enfin une voix caverneuse.
Kelton, à l'appareil.
Monsieur Kelton, est-ce que vous tenez à votre magazine ?
Paul, 15 septembre 1995, New York. Dans la salle de bain miteuse de l'hôtel où je loge, le néon clignote de longues secondes avant d'éclairer la pièce minuscule d'une lumière jaunâtre. Je regarde l'étendue des dégâts. Mon sourcil gauche a viré au bleu-noir et a triplé de volume. Une petite plaie d'environ 1 cm de hauteur en découpe l'extrémité. Déjà une croûte de sang se forme. A priori, l'arcade n'est pas brisée. Heureusement, j'ai une trousse de premiers soins et du désinfectant. Et pour cause, 10 ans au service du magazine Globe suffiraient à valider un doctorat en médecine. Une fois sur trois, les photos volées et les entretiens qui dérapent laissent des traces. Que ce soit lors d'une course de muscle cars au fin fond de l'Arkansas ou en plein milieu des nuits de débauche des clubs estudiantins de Yale, il faut s'attendre à donner de sa personne pour espérer ramener quelque chose de croustillant. Croustillant. Ça, c'est un mot qu'aime particulièrement Kelton, mon rédacteur en chef, avec quelques autres. Choc, cul, sensationnel, sang, incroyable, qui constitue le gros de son vocabulaire. Ce qui intéresse Kelton, c'est pas l'information elle-même ni sa véracité, non. Ce qu'il souhaite, lui, ce sont des révélations. Faire frétiller le cœur des centaines de milliers de lecteurs du Globe qui, à la lecture de ce ramassis d'ordures, se disent que, finalement, leur vie misérable n'est pas si mal. Le magazine offre de belles œillères pour oublier sa médiocrité. Je ne l'aime pas. Pire, je l'exècre. Pourtant, j'y travaille. Je finis de m'humecter le sourcil de désinfectant, arrache un bout de sparadrap et le colle le long de ma blessure. Maintenant, je ressemble à un bulldog nain avec un pansement sur la tronche. De mieux en mieux. Je m'efforce de détourner le regard du téléphone fixé sur le mur à côté du lit. Une petite lumière verte clignote par intermittence pour me signaler que j'ai reçu des messages. Je m'attends à un flot ininterrompu d'insultes de Kelton. Premier message, aujourd'hui, à 18h30.
Green, ici Kelton, qu'est-ce que tu fous ? T'es censé avoir fini ton interview, rappelle-moi vite. J'espère que t'as dû gratiner.
Oh, gratiner. Je note mentalement que mon rédacteur en chef vient d'étendre sensiblement le champ de son vocabulaire. Aujourd'hui, à 18h52.
Green, putain ! Je viens d'avoir John Harlow au téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce que t'as foutu, bon dieu de merde ? Tu nous as grillé, Green ! Tu comprends ça ? Grillé ! Non mais quel connard !
Aujourd'hui, à 18h58.
Mais tu vas répondre, oui ? Pour ton information, Harlow veut empêcher la parution du magazine. Ils ont les moyens de nous faire couler. T'es mort, du con !
Je ferme les yeux quelques instants. J'entends le grésillement de la climatisation, le martèlement de la pluie sur la petite fenêtre, le calme avant la tempête. Je compose le numéro de téléphone de la ligne directe de Kelton. À peine ai-je le temps de préparer ma défense qu'il décroche, aux abois.
Green, espèce de baltringue ! Qu'est-ce que t'as encore foutu ? J'en peux plus de tes plans foireux, tes excuses minables ! Ça fait combien de temps que tu bosses pour moi, Guignol ?
10 ans.
Ouais, 10 ans ! Eh ben c'est 10 ans de trop. T'as jamais été foutu de me dégoter un sujet intéressant. Et la première fois où ça t'arrive, tu fous tout en l'air. Tu te rends pas compte de ce que ça représentait un tel article pour notre magazine ? C'était ta dernière chance, cette interview.
Je peux vous expliquer.
Je m'en fous, tes explications.
Ça s'est pas très bien passé, certes, mais avec ce qu'il y a dans l'interview, ils n'ont pas non plus matière à nous attaquer. Je suis sûr qu'ils vont rien faire contre nous, c'est du bluff.
Tu bluffes ? Et t'y connais quoi en bluff, scribouillard de mes deux ? Green, t'as pas l'air de comprendre. Stills n'a qu'à claquer des doigts et ses rideaux sur le magazine.
Et qu'est-ce qu'on fait alors?
T'en as de bonnes. Eh bien, on publie cette putain d'interview. On va se les faire, ces enfoirés.